Bonjour Jérôme Toubiana.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a poussé les militaires à effectuer ce coup d'État selon vous?
Difficile de dire, mais il est clair que beaucoup de militaires n'étaient pas très heureux dans la perspective d'une transition vers un pouvoir de plus en plus civil et démocratique. Ils se sentaient notamment menacés par la réforme des services de sécurité. Ils se sentaient menacés par la perspective qui est des actions de justice, soit au niveau international, à la Cour pénale internationale pour les crimes commis au Darfour depuis 2003. Et puis aussi des procédures au Soudan même, hein, notamment l'enquête sur la répression de manifestants précédemment menée en 2019, qui là pouvait mettre en cause beaucoup plus de gens. Emeti notamment était mis en cause, mais aussi des dirigeants importants de l'armée. Et puis aussi les réformes économiques menées par le gouvernement Hamdok se heurtaient à la volonté des militaires de conserver leur propriété économique, puisque l'armée soudanaise et d'autres partie de l'appareil sécuritaire soudanais sont aussi des propriétaires très importants d'un certain nombre d'entreprises, en fait, tout simplement. Pour autant, je ne trouve pas que les circonstances soient particulièrement favorables pour faire un coup, a priori, puisque il y a quelques jours des manifestations de soutien au gouvernement civil qui ont été importantes.
Quand diriez-vous que le rapport de force entre civils et militaires a commencé? Est-ce qu'il a démarré dès août 2019, dès la signature au Friendship Hall de Khartoum de la déclaration constitutionnelle, ou est-ce qu'il y a eu une période de cohabitation sans tension, pourrait-on dire, entre les deux camps?
À mon avis, ce rapport de force, ce conflit en fait entre civils et militaires, a été présent dès les négociations, hein, avant même la constitution des autorités mixtes de transition civile ou militaire, mais il a été, disons, moins visible, non du fait d'une bonne entente, du fait d'abord que beaucoup d'acteurs civils et militaires n'étaient pas forcément très forts et donc avaient intérêt à s'entendre entre eux, ou en tout cas à masquer leurs conflits. Il y avait d'autres conflits aussi internes aux civils et internes aux militaires qui paraissaient jusque-là plus importants. C'est en particulier le cas du conflit entre Al-Burhan, donc le chef de l'armée régulière, et son adjoint Hemeti, qui lui est le chef d'un groupe paramilitaire. Al-Burhan souhaitait plutôt contrôler les forces paramilitaires, les forces de soutien rapide de Hemeti, et donc il y avait évidemment une compétition entre eux. Aujourd'hui, ils semblent être unis et c'est probable qu'il y ait une entente entre Al-Burhan et Hemeti qui ait rendu possible ce coup de force. C'est seulement vraiment dans les toutes dernières semaines qu'ils ont apparu à peu près sur la même ligne.
De quelle manière est-ce que ce qui s'est passé fin septembre, une supposée tentative de coup d'État dénoncée par l'armée, de quelle manière est-ce que tout cela a contribué à aggraver la crise entre civils et militaires?
Civils et militaires se sont un peu jetés à la figure des accusations de responsabilité quant au coup ou de faiblesse. Les militaires ont déjoué le coup, mais il y a aussi une autre interprétation qui circule depuis à Khartoum, qui est que les militaires, ou en tout cas une partie d'entre eux, ont fait une sorte de test de coup. Est-ce que le test a été positif? Pas vraiment, puisqu'il a été suivi par des mobilisations tout de même massives de soutien au gouvernement Hamdok et aux civils. Pour autant, visiblement, en tout cas, les militaires ont considéré qu'il était possible aujourd'hui de faire un coup.
Alors justement, le bras de fer entre civils et militaires s'illustre dans la rue depuis la mi-octobre, depuis qu'on a vu des manifestants hostiles au gouvernement d'Abdallah Hamdok monter leur tente devant le palais présidentiel à Khartoum. Est-ce qu'effectivement la population est partagée dans ce bras de fer ou est-ce qu'elle soutient plutôt les forces pour la liberté et le changement, c'est-à-dire la composante civile de la transition?
Je ne pense pas que la population soutienne les forces pour la liberté et le changement en soi, parce qu'elles ont beaucoup déçu et qu'elles représentent plutôt l'élite que la population en général. Mais la population soutient certainement, notamment les comités de résistance, hein, qui sont vraiment le véritable fer de lance de la révolution de 2019, parce que ce sont les comités qui sont implantés dans les quartiers, qui sont véritablement des représentants de la population, plus que les politiciens.
Est-ce que les comités de résistance dont vous parliez à l'instant sont susceptibles de se mobiliser dans le cadre d'un bras de fer entre civils et militaires dans les jours qui viennent?
Je pense qu'ils vont se mobiliser, à l'évidence, et que ça risque d'être une mobilisation très forte. On peut espérer que les militaires fassent preuve de suffisamment d'intelligence et de retenue pour ne pas se livrer à une répression violente. Par le passé, en 2019, il y a eu des phases de répression violente, notamment lors du massacre du 3 juin, mais il y a eu aussi, à d'autres moments, de la retenue qui a permis justement des négociations. Donc là, il est vraiment urgent, sans doute, qu'il y ait une mobilisation et que ce soit une mobilisation qui pousse les militaires, fasse pression sur les militaires pour qu'ils remettent la transition sur les rails, qu'ils reviennent en arrière tout simplement et qu'ils se remettent à la table des négociations avec les civils pour constituer un gouvernement civil ou militaire.
Jérôme Toubiana, merci.